L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Jean-Marie Roir, bonjour.
Bonjour.
Une quarantaine de livres entre Grasset, Gallimard, Robert Laffont et puis une infidélité chez DDB pour un essai, Libertin et Chrétien. En 2004, vous êtes membre de l'Académie française, au fauteuil 23, succédant à Georges Duby, Marcel Arland et André Mauroy, entre autres. Vous publiez cette semaine La maîtresse italienne chez Gallimard. Alors comme tous les romans courts, à peine 180 pages, il se lit lentement, tant on a envie de s'arrêter, non par essoufflement, mais par cette espèce de rêverie que vous procurez à votre lecteur. Nous sommes en 1815, tandis qu'à Vienne, toute l'Europe est rassemblée pour débattre du nouveau monde après l'Empire français. Napoléon est à l'île d'Elbe en attendant son châtiment. Il est surveillé par le jeune colonel Neil Campbell. Vous aviez déjà écrit en 2012 « Napoléon ou la destinée ». Le sujet est fascinant, c'est entendu, mais pourquoi y revenir ?
Bien, d'abord parce que Napoléon a occupé une très grande place dans ma vie. Je l'ai dit à un moment, il m'avait sauvé la vie quand j'avais 18 ans. Je ratais tout, c'était épouvantable.
Oui, vous étiez un cancre.
J'étais un cancre, je ratais mon bac, j'étais complètement fauché, ma petite amie m'avait quitté, j'étais au bord du suicide, et j'ai lu le mémorial de Sainte-Hélène, et subitement je me suis dit, mais c'est formidable, ce type qui a tout raté, mais après, ça a mieux marché. et puis surtout, j'ai découvert que cet homme était vraiment, avait quand même une qualité formidable, c'est qu'il n'est jamais médiocre. C'est un homme qui a été épris de grandeur, épris de noblesse, et je me suis dit, c'est un formidable exemple, et puis c'est un homme très littéraire, et donc c'est aussi, j'ai été sauvé. La littérature et Napoléon m'ont sauvé la vie.
Alors d'emblée, dès les premières pages, vous le décrivez, Napoléon, à travers le regard du jeune colonel, je vous cite, c'était à lui donc un officier, comme il y en a des milliers, jeune de surcroît, il avait 35 ans, qui était échu ce privilège d'accompagner dans son exil, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, l'homme considéré comme le plus puissant de la Terre. Un héros que dans les contrées les plus lointaines, on n'était pas loin de considérer à l'égal d'un dieu. Cet homme se tenait à quelques pas de lui, physiquement il avait forci. Il n'avait plus le visage émacié du fringant général d'Arcole que diffusaient les images d'Épinal jusqu'à plus soif. Les joues pleines, le ventre rebondi, il était grassouillet et dodu comme un notaire. Mais cette apparence de notable qui l'avait déçu lors de la première entrevue à Fontainebleau s'effaçait au premier mot, au premier regard qui gardait l'intense fixité de l'aigle et vous pétrifiait. Sa voix aux accents tantôt impérieux, tantôt enjôleurs, révélant une énergie intacte, avait un pouvoir magnétique, elle vous ensorcelait. Quant à son sourire étonnant de jeunesse et de naturel, on était désarçonné de le voir s'épanouir chez un conquérant qu'on croyait revenu de tout. Quelle malice il contenait, comme s'il témoignait du peu de cas qu'il faisait, philosophiquement, de la solennité à laquelle sa grandeur le condamnait. C'est quand même terrible, cette apparition, là, à Elbe, et il voit ce type qui est comme un notaire, mais en même temps, il a l'intense fixité de l'aigle, le regard qui a l'intense fixité de l'aigle qui vous pétrifiait.
Et en même temps,
j'ai l'impression de voir Bernard Arnault.
En même temps, c'est un homme très sympathique. C'est-à-dire
oui.
ce qu'on oublie, c'est que tous les témoignages, il est drôle, c'est un homme amusant. Bon, alors bien entendu, pas sur le champ de bataille, mais tous les gens qui l'ont rencontré nous disent qu'il était facétieux.
Mais oui. Alors il arrive à Elbe, et Elbe, vous nous donnez toute la problématique. Dans l'île, il ne se lasse pas du permanent théâtre qu'il a sous les yeux. C'est la reddition de l'Empire en modèle réduit, une experte miniaturisation d'un système de gouvernement passé de 100 millions de sujets à 10 000 Iliens, d'une grande armée de 800 000 hommes à une garde prétorienne de moins de 2000 soldats. Cela donne le sentiment poignant du rappel d'une grandeur passée et en même temps du ridicule de tenter de la reproduire sur une autre scène. Comme un opéra magnifique de décors, de costumes et de mise en scène transporté dans le théâtre municipal d'une ville de province. Tout est disproportionné, un trop petit cadre pour des trop grands acteurs. Le déploiement des cérémonies militaires, la stricte étiquette semble déconnectée de la réalité. On singe un pouvoir évanoui, on recrée la liturgie d'une cour factice dans un minuscule palais qui paraît en carton-pâte. C'est terrible.
C'est terrible. Mais en même temps, il est le centre de toute la tension européenne, de toutes les puissances qui sont réunies au Congrès de Vienne, et bien entendu, à Paris, de Louis XVIII. C'est-à-dire, oui. Les gens ne pensent qu'à ça, qu'à lui. Ils restent fascinés par sa grandeur et ils ont une angoisse, qui est une sourde angoisse de ce qu'il va faire. En fond. Tout le monde est un peu inquiet et il est très très présent en creux.
Est-ce qu'ils ne veulent pas, est-ce qu'ils se disent pas, c'était un peu un empire de pacotille, on lui laisse juste les flonflons et puis il s'en contentera.
Non, je crois qu'il y a une angoisse vraiment sourde chez tous les hommes qui règnent, les rois, les empereurs, parce qu'il a introduit en politique un principe qui n'est plus la légitimité, c'est le mérite. Et cette légitimité qui est remise en cause, c'est vraiment, c'est pour ça que à Vienne, ils vont recréer la Sainte Alliance, afin de lutter contre ce pouvoir extraordinaire de la liberté et du mérite qui s'est introduit, et ils vont tout faire pour la juguler, mais ça explosera par les idées napoléoniennes, 30 ans plus tard, avec les révolutions de 48.
Juguler, vous venez de donner le verbe, et en effet, le piège se referme sur lui. Je vous cite encore, les puissances coalisées auraient voulu qu'il leur fausse compagnie, elles n'auraient pas agi autrement. L'absence des subsides annuels stipulés par le traité de Fontainebleau, que Louis XVIII s'obstine à ne pas lui verser, les menaces de déportation lointaines, chaque jour plus précises, la quasi-séquestration de Marie-Louise et du roi de Rome ont participé à sa lente asphyxie. Les alliés pensaient user ses forces par mille vexations, c'était mal le connaître. Le piège se referme, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'argent de Louis XVIII. Sa femme et son fils sont quasiment séquestrés à Vienne. Il n'y a plus rien à faire. Et du moins, toute l'Europe pense...
Oui, mais la chance de Napoléon, parce que c'est un empirique. Ce n'est pas un homme de théorie auquel il obéit aveuglément. Il se dit, mais ça peut capoter ce congrès de Vienne, puisque les tensions, notamment entre l'Autriche et la Russie... peuvent aboutir à une guerre. Imaginez qu'il y ait eu une guerre à ce moment-là entre l'Autriche et la Russie, on avait besoin de Napoléon. Alors donc, il attend le moment, c'est vraiment, comme selon son expression, il attend que la poire soit mûre.
Alors, les espions sont partout, il y a un réseau de Corses fidèles pour l'empereur, le grand proscrit, mais aussi des Anglais, des Italiens. Il faut dire que l'île d'Elbe est une passoire et que les courriers y viennent ou en partent centralisés à Livourne par un agent municipal, François Bartolucci. Et puis au sein de tout ce dispositif, une femme. La comtesse Miniacci, la maîtresse italienne, et au centre de tout ce dispositif, elle est la maîtresse de Campbell, lequel Campbell l'a rejoint à Florence et à Luc, laissant ainsi Napoléon sans surveillance. Qui est précisément la comtesse Miniacci?
Alors, c'est une énigme historique. Elle a eu un rôle...
Parce qu'elle existe, hein?
Elle a vraiment
existé. Oui, j'ai vérifié, elle est là.
Mais vraiment, c'est très peu de choses sur elle, parce que les historiens, bizarrement... ne se sont pas intéressés à elle. Moi, j'étais sidéré quand j'ai fait mon essai biographique sur Napoléon, et bien de voir qu'il y avait deux lignes sur elle. Alors que elle a été déterminante. D'ailleurs, parce que Pauline Bonaparte dira si le nez de la comtesse Miniacci avait été plus long, le sort du monde eût été changé. Et en effet,
c'est presque Cléopâtre.
Oui, c'est exactement Cléopâtre. Et le fait que le colonel Campbell soit tombé fou amoureux d'elle. Qu'il ait délaissé l'île d'Elbe pour aller la retrouver dans son palais de Florence, bien entendu, ça va permettre à Napoléon, qui surveille tout ça attentivement, de partir. Parce que imaginez qu'il ait échoué, parce que ce qu'on oublie, on pense toujours aux 100 jours, à cette campagne extraordinaire de reconquête de la France par un seul homme, c'était absolument inouï. Et ça fait oublier l'île d'Elbe, mais c'est aussi extraordinaire d'avoir réussi à s'échapper de l'île d'Elbe. Mais non, c'est extraordinaire. Il faut voir le concours de circonstances et l'habileté avec laquelle il va réussir à s'enfuir grâce à cette femme. Et alors là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle était manipulée par les puissances? Est-ce que c'était simplement une amoureuse, une femme un peu courtisane? Est-ce que c'est une histoire d'amour? Parce que quelquefois dans l'histoire, regardez la guerre de Troie, c'est uniquement une histoire d'amour qui provoque des...
Alors on s'incline, vous la décrivez de façon étonnante, tout son corps ne semble avoir été créé que pour donner de la volupté, écrivez-vous. Et puis un peu plus loin, aucune de ces femmes ne pouvait pourtant rivaliser avec la comtesse Miniacci, aucune n'avait pu lui offrir un plaisir comparable à la volupté qui l'a foudroyée dans ses bras. Donc c'est une femme paratonnerre, enfin, c'est plutôt une femme tonnerre, je veux dire.
Oui, parce que je ne pense pas que le colonel Campbell, si cette femme n'avait pas été aussi séduisante, aurait abandonné son poste aussi facilement. Je crois qu'il y a à la fois, il faut voir, Stendhal l'a tellement bien raconté, la magie de l'Italie, vous savez, il disait, le charme de l'Italie est parent de celui d'aimer. Et cette femme qui vit à Florence, dans l'Altra Arno, dans un palais, évidemment, est extraordinairement séduisante, mais c'est ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est de voir comment c'est l'interférence de grandes histoires d'amour et de l'histoire.
Alors justement, le roman s'articule sur trois femmes. On a la comtesse, on vient d'en parler, mais on a aussi Pauline et Dorothée. Alors Pauline, vous manifestez une certaine tendresse pour elle. Hein. Je vous cite, « Belle, mutine, aguicheuse, paresseuse pour ce qui l'ennuie, infatigable sur la piste de danse, ultra séduisante, chaleureuse avec un fond de bonté, elle possède au plus haut degré l'art de tirer de la vie tous les sucs du plaisir. » Volage autant qu'il est possible, sacrifiant tout à une sensualité vorace, dépourvue d'égoïsme, elle se veut l'entremetteuse de tous et de toutes, favorisant les liaisons, accueillante aux confidences, immorale quand son plaisir le juge nécessaire, amorale en permanence car n'ayant de règles de conduite que la pleine satisfaction de ses sens, on ne peut que l'aimer tant elle communique son amour de la vie. À 34 ans, elle en paraît 10 de moins. Donc on a Pauline qui arrive à elle, et Pauline c'est la vie.
Oui, c'est vrai que Pauline Bonaparte a quelque chose d'extrêmement séduisant. D'ailleurs, le frère...
Et vous dites qu'elle remplace le génie militaire de son frère par le génie de la vie.
Oui, mais leur lien était si fort que Louis XVIII et Blacas ont essayé de faire croire qu'ils avaient une liaison ensemble et qu'ils étaient même contaminés par une maladie vénérienne. Vous voyez, donc on était. Et cette connivence entre les deux est extrêmement forte. Et c'est elle qui va un peu lui remonter le moral à l'île d'Elbe. C'est elle qui va. Puisque.
C'est la vie, Pauline.
C'est la vie. Il attend Marie-Louise qui ne vient pas. Et à défaut de Marie-Louise, il a peut-être encore beaucoup mieux. Il a sa sœur.
Donc on a parlé de la comtesse, première femme, de Pauline, deuxième femme, et puis il y a Dorothée de Périgord, dont l'oncle Charles-Maurice de Talleyrand était pris. Il a 60 ans, elle en a à peine plus de 20. Je vous lis encore Jean-Marie Roire dans La maîtresse italienne que vous publiez chez Gallimard cette semaine. Donc on en est à Dorothée. Elle fait partie de ces femmes qui compartimentent leurs amours. Rien n'arrête cette superbe créature qui, sentimentalement, ne respecte aucun contrat d'exclusivité. Elle ne juge nullement incompatible d'avoir un amant de cœur pour danser, courir les fêtes, les courses en traîneau, les redoutes, de s'accorder des passades avec des soupirants d'occasion et, en secret, d'entretenir avec un homme qui pourrait être son grand-père des relations tendres et voluptueuses qui, bien entendu, doivent se dérouler sous le sceau du secret quand les portes du palais Konitz sont closes, les domestiques couchés, les lustres éteints, et que ne résonne plus dans la pénombre que le tic-tac des cartels. Elle est de ces âmes d'élite qu'aucune convention, aucun principe n'arrête sur le chemin du plaisir. Et avec le prince, voluptueux et sentimental autant qu'on peut l'être, elle n'a pas trouvé un homme trop à cheval sur la morale. N'est-il pas la moralité même, ce qui n'exclut nullement le sentimentalisme ? Une mystérieuse complémentarité les unit. Là aussi, elle est bouleversante, Dorothée.
Oui, c'est vrai que les femmes jouent un certain rôle dans mon livre, mais l'histoire, vous voyez, je crois que c'est, d'ailleurs, dans tous mes livres, j'ai été toujours fasciné par le pouvoir des femmes, par la séduction qu'opèrent les femmes, et par leur rôle extraordinaire dans l'histoire, dans des époques où, étrangement, on était bien avant MeToo, où, étrangement, leur statut était faible, mais leur importance très grande.
Alors c'est à se demander, Jean-Marie Roire, si le cadre historique de votre roman n'est pas un prétexte au vrai sujet du livre, l'excitation terrible des hommes sur la pente du vieillissement. De Louis XVIII à Talleyrand, les vieux hommes sont interdits de jeunesse, bouleversés par le charme et sidérés par la liberté de ces femmes volages. Quand vous évoquez Louis XVIII, vous écrivez, je vous cite, « Cette impuissance l'épuise, elle l'aigrit en grivoiserie malsaine, le condamne à rechercher des postures humiliantes sans autre résultat que de le frustrer davantage. » C'est le portrait d'un barbon, n'est-ce pas notre futur à nous, tous les hommes ?
Vous croyez que c'est autobiographique ?
Non, pas du tout. Pas du tout,
c'est que... Vous savez, quand on rentre à l'académie, peut-être qu'on a des fantasmes de jeunesse.
J'ai pas dit que c'est autobiographique, mais je trouve qu'il y a une réflexion. Exactement comme Stendhal avec Mosca. Hein, Mosca, c'est l'homme de la cinquantaine, c'est l'homme qui est perturbé dans son désir. Et on retrouve dans votre livre La maîtresse italienne, Jean-Marie Roire, on retrouve trois portraits de femmes, mais on retrouve aussi ces portraits d'hommes qui arrivent à un certain âge et qui sont encore plus excités, autant par la femme que par la perte de leurs moyens.
Oui, mais je crois que ce qui m'intéresse, ce qui me passionne dans le roman, c'est la vie.
Et oui.
Et la vie, c'est la passion, c'est la passion amoureuse, et c'est la passion de l'histoire. Vraiment, parce que je crois que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand vous avez à la fois des passions amoureuses et l'histoire qui est extraordinaire, parce que c'est un roman aussi formidable, eh bien, quand tout se mêle, je crois qu'on a une expression merveilleuse de la vie. Et vous avez cité Stendhal, et qu'on retrouve dans Une ténébreuse affaire de Balzac. Voilà, je crois que tous les grands romans, moi, les romans qui me plaisent, sont des romans dynamiques, des romans d'énergie et des romans de passion, où les hommes et les femmes, eh bien, se retrouvent et ont un sentiment d'intensité.
La dynamique, elle vient des femmes.
La dynamique, c'est vrai qu'elle joue un très grand rôle. Mais je pense que quand vous observez l'histoire, vous voyez le rôle extraordinaire qu'elles ont joué.
Mais oui.
Je ne parle même pas de Ninon de l'Enclos. Vous savez, il y a cette phrase merveilleuse de Ninon de l'Enclos. Elle disait « La maladresse des hommes a manqué plus de cœur que la vertu n'en sauve. »
Eh bien voilà, tout est dit. oui, donc j'avais un peu l'impression que, comme Romain Gary qui écrivait « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable », c'est quand même ce qui obsède à la fois Louis XVIII comme Talleyrand. Alors c'est étonnant le personnage de Talleyrand, parce qu'on sait le rôle qu'il a joué au Congrès de Vienne de façon incroyable. Mais là, s'il joue ce rôle, c'est grâce à Dorothée.
Oui, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'il a 61 ans. Et il vient d'abandonner sa femme, il l'a laissée à Paris, et il a emmené sa jeune nièce de 21 ans, et il va éprouver une passion torride pour elle, au point qu'ils auront même un enfant. Alors, beaucoup d'historiens disaient que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas eu de liaison. Bon, moi, je crois que c'est là où les romanciers apportent peut-être quelque chose de plus aux historiens, parce qu'ils ne sont pas en concurrence. Moi, je ne suis pas un historien, je ne suis pas en concurrence avec les grands historiens, mais une complémentarité. Je crois que c'est une complémentarité qui est celle de la vie. Je crois que l'histoire, ce n'est pas seulement des documents, c'est aussi voir des hommes comme des hommes.
L'histoire prouve, le romancier éprouve.
Voilà, le romancier peut-être apporte quelque chose d'humain, quelque chose, une humanité, et qu'est-ce qu'il y a de plus humain que l'amour ?
Évidemment. Alors parlons un peu de l'Académie française. En 2023, seule élection, c'était celle de Sylviane Agacinski au fauteuil 104, au fauteuil 19. 5 fauteuils sont vacants actuellement. J'ai lu que Jean-Marie Bessette postulait pour le fauteuil vacant de Marc Fumaroli. S'il est le seul prétendant, il sera forcément élu ?
Ah non, mais il n'est pas le seul prétendant.
Il n'est pas le seul prétendant.
C'est très rare qu'il y ait un seul prétendant.
Ben oui, en ce moment, il y a 5 fauteuils qui sont à pourvoir. Mais alors, j'ai été étonné parce que Hélène Carrère-Dancausse, Jean-Denis Bredin ou René d'Obaldia sont des fauteuils non déclarés. C'est-à-dire, alors là, on rentre un peu dans la cuisine, mais ça m'intéresse. Ce n'est pas automatique après le décès d'un immortel ?
Non, il faut attendre un certain délai. Voilà, un délai de viduité. Et puis ensuite, il y a l'élection.
Et pourquoi ce délai ?
Ah, parce que ça fait partie des statuts de l'Académie.
Ah, d'accord.
Dans sa sagesse, c'est très grand.
Dans sa grande sagesse.
Là, on est très loin des passions amoureuses. Là.
Ah, oui. Il n'y a pas que les séances du dictionnaire qui vous font travailler. Les académiciens voyagent beaucoup, semble-t-il. Oui. Et pour quelle mission ?
Ben, ils font des missions parce qu'ils sont peut-être plus appréciés, d'ailleurs, dans le monde qu'en France. En tout cas, qu'à Paris.
Oui.
Parce qu'en province, quand même, s'ils ont un certain...
Mais ça marche bien.
Oui. Mais je pense qu'ils représentent la France, ils représentent... Il devrait représenter ce qui est quelque chose de tellement essentiel en France, c'est la littérature. Vous savez, la littérature, ça a été pendant très longtemps, pendant des siècles, le pilier vraiment autour de laquelle s'organisait la France. Il y avait l'État, il y avait le catholicisme et il y avait la littérature. Ben maintenant, ces trois piliers ont tendance un peu à disparaître.
On préfère la finance, la mondialisation et le numérique.
Voilà, voilà. Et ça, c'est peut-être dommage, en tout cas pour la littérature, qu'incarnait vraiment l'existence même de l'Académie française.
La langue française est assez bafouée sous prétexte qu'elle est vivante et qu'elle s'enrichit des langages des quartiers et des territoires, véhiculés entre autres par le rap. Vous sentez-vous un rempart de la culture de la langue française ou un accompagnant ?
Non, moi je suis profondément choqué par le franglais et par l'absence de décision des pouvoirs publics vis-à-vis de cette invasion. Ce que Régis Debray appelait, il disait, on vient d'un pays gallo-ricain. Eh bien, c'est effrayant, parce que la langue française est en train de mourir, et tout le monde s'en fiche.
Elle meurt ou elle évolue ?
Non, elle meurt. Elle meurt. Alors, et vous verrez, dans 20 ans, la langue française sera une langue morte qu'on étudiera comme on étudie le grec ancien. Vous voyez, alors en se disant que magnifique.
Vous êtes fort pessimiste, Jean-Marie Roy.
Mais non, je ne suis pas pessimiste. Au contraire, j'alerte. Mais vous savez, ça fait 50 ans que Étienne Amble a écrit un livre qui s'appelait Parlez-vous franglais, que Cioran se désespérait de voir.
Oui, mais toujours désespéré.
Mais avec raison.
Oui.
Non, moi vraiment, c'est un. D'ailleurs, l'Académie a créé un rapport magnifique sur lequel elle voulait. Parce que ce sont les responsables politiques qui me parlent franglais. Pourquoi est-ce qu'ils parlent de cloister au lieu de parler de foyer? Pourquoi est-ce que, tenez-vous bien, l'université de la Sorbonne, vous savez comment elle s'appelle? Sorbonne Université. C'est de la syntaxe du franglais. Et c'est un scandale. On a échappé à peine à Lorraine Airport. Vraiment, parce qu'il y a eu une décision de justice. Non, c'est un scandale. Et c'est moi, j'en souffre, parce que moi, j'adore la langue française. Et ce qu'elle véhicule? Elle véhicule les valeurs profondes de la France.
Mais oui. J'entendais l'autre jour une personne au sujet d'un grand comédien du cinéma qui a quelques problèmes en ce moment avec la justice et qui disait qu'il fallait le canceliser. Le canceliser, c'est-à-dire retirer, changer. Quoi. Alors il faudra revenir pour une émission entièrement consacrée, j'espère, à l'Académie. Vous reviendrez peut-être avec Dominique Bonnat, que j'aime beaucoup recevoir à ce micro. Revenons un peu à la maîtresse italienne, après cette parenthèse sur l'Académie française, qui nous fascine toujours. Quand on rencontre un académicien, on a toujours envie de lui parler de sa cuisine, parce que c'est assez fascinant, votre histoire. Le destin de Napoléon. On revient au destin de Napoléon qui vous a sauvé la vie. Toute sa vie, il s'est plié au décret du destin. Et ce destin s'impose à lui aujourd'hui, lumineuse clarté, dissipant les hésitations qu'il a pu avoir. C'est ce destin qui l'a conduit depuis sa fuite d'Ajaccio, pour échapper aux partisans de Paoli. Ce destin qui l'accompagne depuis le siège de Toulon, en lui assurant cette protection qui l'a fait échapper à la balle qui a tué Muiron au pont d'Arcole. Ce destin encore qui lui a permis de quitter l'Égypte sur une frêle frégate, malgré la surveillance de Sir Sidney Smith. C'est lui qui lui a épargné à quelques secondes près d'être pulvérisé par la machine infernale de la rue Saint-Nicaise. Lui encore qui, pendant la campagne de France, l'a protégé miraculeusement de la mitraille et des boulets. Sans le destin, que fut-il advenu de lui au cœur de ces enfers que furent les combats de Saint-Dizier, La Rotière, Champaubert, Montmirail, Arcis-sur-Aube? Son heure n'avait pas sonné. Maintenant, délivré du doute, confiant dans son intuition, se sentant au-dessus des circonstances, ne craignant aucun obstacle, il a le sentiment de s'appartenir. Il va sur le seul chemin qui convient à son génie, le sien, celui de son étoile. C'est assez épatant, votre histoire, la façon dont vous résumez le destin de Napoléon.
C'est une conception de la providence qui n'est pas celle de Bossuet, c'est une providence laïque. Parce que c'est un homme qui croit, finalement, il est agnostique, mais en même temps, il croit qu'il y a quelque chose de merveilleux derrière la vie. Il ne croit pas au néant, c'est pas du tout un athée. Hein. Et c'est un homme qui respectera toujours les religions. D'ailleurs, son concordat, à mon avis, était admirable. Et on a eu tort, c'est mon opinion, on a eu tort de revenir sur le concordat, qui d'ailleurs existe encore en France, dans deux départements.
En Alsace, non, notamment. Mais on sent dans votre... Exactement la toute première phrase de la Chartreuse de Parme, qui sonne comme le départ d'un match de la Coupe du Monde. Enfin, c'est extraordinaire, c'est un coup de sifflet formidable qui passe le pont de Lodi, montrant à toute l'Europe... et c'est toute la jeunesse en même temps. Cette jeunesse, cette force et cette fougue de Napoléon qui, avant de devenir l'aigle, est vraiment un jeune homme plein d'ardeur.
Oui, et ça fait du bien dans notre époque où... Pour reconnaître, on n'a pas énormément de personnes admirables, de voir quelqu'un qui a pu incarner un grand principe, ce principe du mérite, de prendre ce qu'il y avait de meilleur dans la Révolution et en même temps de créer la France moderne. Alors, vous allez me dire, il y avait des morts. Oui, il y a eu des morts. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la Troisième République a été très forte aussi, que la guerre de 14 a fait beaucoup plus de morts que les guerres napoléoniennes.
Sans prendre de territoire.
Avec une légende qui est faible, parce que Bon, tous les gens qui ont écrit, tous les écrivains de la guerre de 14 ont détesté la guerre de 14, alors que tous les gens qui ont vécu les campagnes napoléoniennes ont passé leur temps à dire que ça avait été la plus belle période de leur vie.
C'est un grand moment, à la fois de jeunesse, de souffle, il faut le dire. Vous avez vu le film Napoléon ?
Oui.
Bon, vous avez aimé ?
Écoutez, je ne l'ai pas détesté, les gens sont très critiques. Mais ce qui est passionnant dans la critique que les gens font du film de Ridley Scott, c'est qu'on sent que Napoléon appartient à tous les Français.
Et oui.
Et ils ont horreur qu'on en dise du mal, ils ont horreur, ils veulent chacun son image de Napoléon et à son petit Napoléon de poche. Et il veut, et chaque Français veut qu'il ressemble.
Merci Jean-Marie Roard pour votre présence et bravo pour ce roman La maîtresse italienne, publié cette semaine chez Gallimard, un roman napoléonien, on l'aura saisi, un roman d'homme et de temps, on l'aura compris. Je signale enfin la parution en folio de Mes révoltes, un livre de souvenirs, presque des mémoires, en tout cas la meilleure introduction à votre quarantaine de romans. À partir du 7 février, Le Bar de l'Oriental, c'est votre nouvelle pièce de théâtre, sera jouée au Théâtre Montparnasse, donc on se précipitera à partir du 7 février. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation et pour la réussite technique, Philippe Alpech, François Dieudonné et Camille Meyer. Demain, nous irons au cinéma avec nos chroniqueurs habituels pour évoquer trois sorties. Couvrez-vous, il fait froid, prenez soin de...